Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Nous nous sommes engagés donc il y a 15 jours et pour 2 ans dans une réflexion collective sur l'expérience communale dont je rappelle qu'elle désigne pour nous à la fois l'expérimentation politique discontinue, hétérogène, que la forme communale fait subir à un devenir politique qui, occidental, mais pas seulement, du fait se défatalise, c'est-à-dire que n'est plus jeté sur la pente inexorable de la construction à la, de la souveraineté, que deuxièmement, ces expérimentations, pour discontinue qu'elles soient, eh bien, peuvent créer en elles-mêmes une expérience accumulée, léguée, et que lorsque nous parlons de la commune, même lorsque nous tentons de le faire à partir d'exemples qui sont historiquement situés, pour ma part, en tant que médiéviste, j'aurai surtout l'année prochaine, je pense, à faire parler sur l'Italie communale, eh bien, on ne peut pas ne pas voir en transparence toutes les autres formes d'expérience. Et il ne s'agit pas seulement pour nous de les neutraliser en les décrivant, mais bien de tenter de comprendre leur feuilletage. Et c'est pourquoi cette question est d'emblée visuelle. Et c'est pourquoi la première séance, il y a 15 jours, eh bien, nous l'avions organisée, Adrien Genoudet et moi-même, autour de la question de faire l'expérience du lieu commun, c'est-à-dire, au fond, une histoire visuelle de ce que c'est que faire commun. Mais faire l'expérience du lieu commun, ça voulait dire, et c'était la troisième acception, au fond, du terme d'expérience, que ce que nous cherchons aussi, c'est, au fond, d'essayer de comprendre ce que ça fait vraiment, ce en quoi ça affecte les corps assemblés, les corps parlants, que de se plier ou au fond, ou pas, de se soumettre à cette forme d'auto-gouvernement. Parmi les couches de transparence, évidemment, celle qui peut être la plus tenace ou la plus persistante, comme on pourrait parler d'une persistance rétinienne, c'est évidemment la cité grecque, soit qu'on la considère effectivement comme l'ancêtre direct, immédiat et immédiatement imitable de l'expérience qu'on est en train de mener. Évidemment, on pense à l'expérience révolutionnaire sur laquelle on achèvera cette année, qui ne se peut représenter qu'en toge gréco-romaine, soit que les acteurs en avaient une conscience moins claire. Évidemment, c'est le cas des communes médiévales dans lesquelles nous serons, en tout cas au moins en esprit, dans 15 jours, autour de Pierre Monet. Mais alors, ce sont les historiens qui les étudient, qui inévitablement ont ce modèle en tête. Donc, pour tenter de l'approcher, d'approcher cette cité grecque autour de la cité grecque, tel est le sous-titre de cette séance, eh bien, je remercie beaucoup Paulin Ismar d'avoir accepté d'organiser cette séance. Il l'a fait comme effectivement, voilà, nous avons pris l'habitude de le faire, c'est-à-dire en prenant voilà, à bras le corps non seulement la question, la cité grecque, mais au fond la démarche, le politique comme forme de vie, puisque au fond nous avons rendez-vous à la fois avec un exemple historiquement situé, mais aussi avec une manière de l'aborder, c'est-à-dire plutôt la philosophie politique. Et c'est pour cela qu'il a eu la bonne idée d'accueillir avec nous donc Carole Wiedmayer et Yves Saint-Omer, que je remercie beaucoup d'être là, que je ne m'attarderai pas à présenter, puisque c'est cette tâche qui incombe à Paulin Ismar. Paulin Ismar, je ne le présente pas. Il est maître de conférence en histoire grecque à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Il a publié il y a 2 ans maintenant ce livre, « La démocratie contre les experts, des esclaves publics en Grèce ancienne qui, d'une certaine manière, thématise ce que nous cherchons ou ce que nous espérons, c'est-à-dire trouver dans le passé des ressources d'intelligibilité pour poser un diagnostic sur le présent, en l'occurrence, à ce moment-là, sur, sinon une crise, du moins une fatigue démocratique liée au rapport entre savoir et pouvoir, ce qui l'amenait à réfléchir à l'institution de la cité comme énigme, écrivais-tu à la presque fin du livre, en rapport évidemment avec le mythe politique, avec l'événement Socrate qui t'a aussi occupé. Sans plus tarder, je te donne la parole et je t'en remercie beaucoup. Et donc, tu vas nous exposer comment tu vois les choses, puisque maintenant, les clés du camion.
Merci, merci beaucoup. Alors, comment poser la question de l'expérience communale médiévale depuis l'observatoire qu'offre l'histoire des cités grecques? J'ai l'impression que c'était un peu la question qui m'était posée par Patrick. Alors, évidemment, une première réponse, la plus simple, la plus évidente, aussi sans doute la plus plate, pourrait consister à scruter la façon dont le souvenir de la cité grecque a pu inspirer l'expérience communale, et en particulier l'expérience communale italienne. Dans ce cas, on se tournerait, par exemple, vers un texte célèbre, l'Éloge de Florence, de Leonardo Bruni, rédigé au tout début du Quattrocento, en 1403. On sait que ce grand texte de la fierté communale, qui exalte la constitution républicaine florentine, est à l'origine, dans toute l'Europe du XVe siècle, et selon un procédé quasi mimétique, d'une multitude d'éloges des villes. Ainsi, en 1436, dans le cadre des réflexions autour du lieu du concile, Desembrio rédige un éloge de Milan. Quelques années plus tard, Piccolomini rédige un éloge de la ville de Bâle. Donc autant de textes qui prennent pour point de départ l'éloge de Florence de Leonardo Bruni. Mais alors on remarquerait aussitôt que le texte même de Leonardo Bruni se voulait la reprise d'un autre texte. L'éloge de Florence avait un grand modèle qui était le discours panathénaïque ou l'éloge d'Athènes, rédigé sous le règne d'Antonin le Pieux, au milieu du IIe siècle de notre ère, par Aelius Aristide. Et Bruni ne faisait pas qu'imiter les règles de composition externe du discours d'Aristide, il projetait le souvenir idéalisé de l'Athènes antique, qui était un objet nouveau dans l'Italie du début du XIVe siècle, du début du XVe siècle, sur la réalité florentine présente. Mais à y regarder de plus près, on se poserait la question alors de savoir de quelle Athènes véritablement il était question dans le discours d'Aristide. Et en fait, ce discours était le fruit d'un montage complexe. C'était un discours écrit pour être prononcé théoriquement durant la grande fête athénienne des Panathénées. Et Aristide entendait à ce moment-là faire revivre le classicisme athénien de l'époque classique dans le contexte de la domination impériale romaine, et donc célébrer la plus illustre des cités grecques au moment où la puissance romaine était étendue sur toute la Grèce. Et d'une certaine façon, ce n'est pas l'Athènes du IIe siècle que célébrait Aristide, c'était l'Athènes du IIe siècle réactivée par la mémoire de la grande Athènes du Ve siècle. Et donc l'idéalisation des formes politiques passées permettait, dans le contexte du IIe siècle, de revendiquer une forme d'autonomie toute relative, mais de la cité dans le cadre romain. De ce point de vue, l'éloge d'Aristide procédait d'un montage de temps hétérogène qui formait un anachronisme. L'ancien et le nouveau se rejoignaient dans cette Athènes du IIe siècle et la cité devenait un objet anachronique parce que célébrée au plus que passé, pour reprendre une expression de Georges Didier Huberman. Et d'ailleurs, Aristide a une formule surprenante quand il écrit à propos d'Athènes, « Seule entre les cités, elle surpasse l'ancien par l'ancien, le nouveau par le nouveau, ou si l'on veut, l'ancien par le nouveau et le nouveau par l'ancien. » Et en réalité, l'éloge d'Aristide ne peut lui-même se comprendre qu'à la lumière d'un autre texte, antérieur de sept siècles, avec lequel il entend rivaliser. Ce texte, c'est la très célèbre Oraison funèbre de Périclès, écrite par Thucydide, et par laquelle le stratège athénien célébrait les morts de la première année de la guerre du Péloponnèse en 430. Et Aristide reprend des lieux communs du discours thucydidéen, tout en développant aussi certains thèmes tout à fait originaux qui l'éloignent du récit thucydidéen. Alors, comment penser ces emboîtements ou ces jeux de transparence successifs par lesquels, dans l'Athènes du IIe siècle, comme à Florence au début du XVe siècle, pour ne rien dire de Milan ou de Bâle, l'expérience de l'Athènes classique, ou peut-être, déjà plus exactement, la cité de Périclès, telle que Thucydide l'a rêvée près de 30 ans après sa disparition, mais comment l'expérience de l'Athènes classique faisait résurgence. Ces résurgences, elles n'offraient pas seulement le récit d'une translation par laquelle le souvenir d'Athènes n'a cessé d'être célébré pour qu'à chaque fois on en capture le prestige. Florence prétendant être, d'une certaine façon, une nouvelle Athènes. Il s'agit aussi d'autre chose. L'idée selon laquelle, par-delà la discontinuité temporelle, une expérience, aussi lointaine fut-elle, puisse non seulement offrir des ressources de sens pour le présent, mais aussi, littéralement, être revécue. Et ces rejeux de l'expérience athénienne, ils ne relèvent pas seulement, loin de là, d'un usage sauvage, profane, auquel s'opposerait un usage savant, réflexif, qui serait immunisé contre tout détournement de nature idéologique. Et la seule évocation du nom de Leonardo Bruni, qui est quand même le grand traducteur de Platon en Occident, l'atteste. Je veux dire par là que la tradition savante sur l'Antiquité gréco-romaine s'est toujours aussi voulu une façon de faire revivre la Grèce au présent et pour le présent, dans un acte à la fois de restitutio et de rénovatio. Produire un savoir scientifique sur le monde gréco-romain a toujours aussi consisté dans le fait de revivre littéralement l'expérience grecque ou l'expérience romaine. Schlegel écrivait « Vivre de façon classique et réaliser en soi-même l'Antiquité de façon pratique, voilà le sommet et le but de la philologie. » Comme si la philologie avait les moyens de faire renaître, à la manière un peu d'un exercice spirituel antique, la Grèce. Il s'agirait de réaliser en soi-même l'Antiquité. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que la Grèce de personne, pour reprendre le titre du livre très important de Jean Bollat, qui était un plaidoyer contre toutes les formes d'instrumentalisation dont la Grèce et l'étude de l'héritage grec pouvaient faire l'objet, et livre important dans lequel Bollat avait cette expression très belle, où il expliquait que la philologie, la science philologique, culminait lorsque la tradition se libère d'elle-même, se transforme et s'organise. Voilà l'horizon de la philologie. Mais d'une certaine façon, la Grèce de personne, c'est un fantasme scientifique irréalisable et irréalisé. C'est, en somme, une utopie. Bon, on le sait tous, l'extrême contemporain a magnifiquement donné lieu à ces jeux de transparence. Et j'en veux pour preuve la référence protéiforme, mais constante, à la Grèce ancienne, par exemple dans un mouvement à quelques centaines de mètres d'ici, comme Nuit debout. Alors je vous lis, parce que c'est quand même instructif, un court compte-rendu d'assemblée qui s'est tenu place de la République le 27 mai 2016. L'Assemblée de Nuit debout avait mis ce soir-là à l'ordre du jour la question suivante. Comment articuler la pratique politique consciente avec un travail à temps plein? Et je vous lis le compte-rendu que j'ai un peu ramassé, mais j'ai gardé l'intervention de cinq intervenants successifs. Et vous allez voir que la Grèce est tout le temps là. Premier intervenant. On a mis en place des professionnels de la politique pour s'occuper de la vie publique. Résultat, on ne fait plus rien. On ne dialogue plus entre nous et les politiciens ont intérêt à ce que tout aille mal pour justifier leur métier et leur salaire. Est-ce qu'on est vraiment prêt à prendre du temps pour s'occuper de la vie de la cité? Deuxième intervenant. La démocratie, c'est les Grecs. C'est faux. Le mot est grec, pas le concept. Et la démocratie grecque était réservée aux nantis. Là-dessus, un troisième intervenant intervient. Le troisième intervenant dit « Dans le travail, on est sous la coupe d'un dictateur, le patron. Dans la Grèce antique, les riches étaient ostracisés, car ils pouvaient prendre trop de pouvoir et l'accumulation de richesses génère de la pauvreté et donc des gens qui n'ont pas le temps de penser à autre chose que de trouver à manger. On devrait avoir du temps réservé à la politique. » Quatrième intervenant « Aujourd'hui, on n'est pas en démocratie, mais en république. Dans la démocratie, tout le monde peut accéder aux fonctions politiques. Ce n'est pas le cas en France. Les Grecs ont montré qu'on ne pouvait pas travailler et participer à la vie politique. Ils avaient des esclaves qui travaillaient pour eux. Il faut réduire le temps de travail de chacun pour qu'on puisse tous participer à la vie démocratique. Et là-dessus, le cinquième intervenant dit « Il faut faire attention au fait que les opinions ne se transforment pas en certitudes. Plus on sait, plus on se rend compte de la complexité des choses et que l'inconnu est énorme. » Bref, l'ostracisme, la non-professionnalisation de la vie politique, et même peut-être dans la dernière intervention une référence tacite à la figure socratique, le souvenir des Grecs, dans leur plus grande généralité, était partout. Et le rappel même de l'esclavage au cœur du fonctionnement du politique, permettant même de justifier la mise à distance du travail qu'exigerait toute politique authentique. Bref, Nuit debout a été à sa manière un grand retour à la Grèce antique. Et l'efficacité des jeux de miroir est évidemment redoublée par la situation de la Grèce contemporaine. À en croire ces assemblées, qui prenaient le nom d'agora, tout geste d'assemblée et de délibération renverrait en dernière instance à l'expérience grecque. Et peut-être est-ce finalement le propre d'un régime d'autogouvernement qui s'est rêvé lui-même transparent, au sens où il était fondé sur la pleine publicité de la vie collective et le contrôle permanent des détenteurs du pouvoir. Nicole Leroux parlait de transparence réalisée dans l'identification du rationnel et du politique. Ben peut-être est-ce le propre d'un régime qui s'est rêvé lui-même transparent de s'offrir à l'infini à ces jeux de transparence. En tout cas, pour les historiens antiquisants, une réflexion originale semble s'imposer d'emblée pour aborder la question de l'usage au présent de la référence grecque et au-delà du paradigme de la renovatio que je mentionnais. Je pense à la distinction formulée par Cornelius Castoriadis entre ce qui serait un usage paradigmatique et un usage germinal de la Grèce ancienne. On sait que Castoriadis a vu dans la Grèce d'époque archaïque et du début de l'époque classique, la première société de l'histoire à s'être interrogée explicitement sur sa propre institution et à se reconnaître comme la source de ses propres normes. Normes qui font l'objet d'un choix délibéré, débattu par la société. Voici pour Castoriadis qui serait l'auto-institution explicite de la polis, de la cité grecque, pensée comme un processus continu, et que Castoriadis décrivait dans les termes d'une sortie de l'hétéronomie et de l'avènement de l'autonomie. Pourquoi s'intéresser alors à la Grèce ? Castoriadis n'a cessé de vouloir répondre à cette question. Non pas, expliquait-il, au sens où nous serions les dépositaires d'un héritage, et la question évidemment étant la nature de ce « nous » en question, non pas au sens où il faudrait défendre les anciens car ce sont nos anciens, il ne s'agit pas non plus de s'intéresser à la Grèce à la manière d'un modèle à imiter, ce qui relèverait d'un usage paradigmatique de la référence grecque. Non, la Grèce s'offrirait comme un germe. Et il y a plusieurs façons de comprendre cette métaphore naturaliste. La Grèce est un germe au sens où il y a un legs grec qui ne cesse de nourrir, de féconder le présent. Et par exemple, chez Castoriadis, ce qui est éminemment discutable. L'universalisme moderne ne ferait qu'étendre et approfondir la signification imaginaire centrale de l'autonomie posée par ce germe grec. Mais surtout, l'usage germinal consisterait à ressaisir une expérience de l'histoire sur le monde d'une virtualité, sur le mode d'une virtualité toujours potentiellement opérante dans le présent. Cette création, écrit Castoriadis, par exemple celle de la démocratie athénienne, a été contingente, mais elle a du moins pour nous ce caractère absolument extraordinaire que cette contingence n'empêche pas une sorte de pérennité virtuelle de certains aboutissements. Bon. Il y aurait beaucoup à dire sur la Grèce de Castoriadis. On pourrait discuter à l'infini, notamment les limites de cet acte d'auto-institution dont la polis aurait offert le premier accomplissement. Comme d'ailleurs l'opposition tranchée que Castoriadis fait entre société fondée sur l'hétéronomie et société fondée sur l'autonomie. Mais ce sur quoi je souhaite juste insister dans cette introduction, c'est la façon dont Castoriadis a envisagé notre rapport à la Grèce. Et si on suit ces derniers séminaires, Castoriadis explique que pour que ce germe trouve son sens dans le présent, il faut aussi, de notre part, ce qui constituerait un acte d'institution imaginaire. Je cite Castoriadis. « Cette signification, ou plutôt ce magma de signification, qu'est l'histoire des cités grecques, nous ne pouvons la saisir qu'en posant un schème imaginaire, ou même la matrice d'un tel schème qui rendra à cet objet historique son inconcevable unité polyphonique, redonnera sens à une foule innombrable de manifestations et fera voir des choses qui, sans lui, seraient restées invisibles. Et cette opération n'est jamais une reproduction ni un décalque de l'objet, mais une recréation qui, tout en restant en rapport avec l'objet historique, nous le fait apparaître à nouveau dans un sens plein, ce qui ne veut pas dire exhaustif ni rigoureusement démontrable, comme monde de signification. D'une certaine façon, dans cette séance, à travers nos trois interventions, c'est ce schème imaginaire qui constitue l'horizon de sens à travers lequel l'expérience civique grecque n'a cessé d'être interrogée, donc qui fait voir, si on suit Castoriadis, des choses autrement invisibles, et qu'il nous faut poser pour accéder à la signification véritable de cette expérience, qui sera au cœur de la séance. Donc elle se déroulera en trois temps, qui correspondent à trois perspectives sensiblement différentes. J'évoquerai pour ma part, dans un premier temps, l'historiographie contemporaine, moderne ou récente autour de la cité grecque et la façon précisément dont la question de l'expérience du commun s'y déploie. Puis, dans un second temps, Yves Saint-Omer, politiste, théoricien du politique, professeur à Paris 8 et qui revient tout juste de Boston, qui a beaucoup réfléchi autour de toutes les formes d'expérimentation démocratique contemporaine, les tirages au sort, les jurys citoyens, et qui souvent toute forme d'expérimentation qui peuvent se réclamer du lointain passé grec, mais qui a aussi publié plusieurs ouvrages importants sur des grandes figures de la théorie politique moderne, Habermas, Weber. Yves Saint-Omer donc parlera de la référence grecque à l'œuvre chez les théoriciens contemporains du politique. Puis Carole Wiedmayer, qui est à ma droite, philosophe et traductrice, qui enseigne à l'université de Besançon et qui est spécialiste de philosophie politique contemporaine. Elle a publié un livre autour de ces deux figures centrales dans notre rapport à l'Antiquité grecque que sont Hannah Arendt et Léo Strauss. C'était Fin de la philosophie politique, qui était paru en 2012 aux éditions du CNRS, et qui a aussi récemment édité, c'est-à-dire traduit, commenté et préfacé l'ouvrage d'Hannah Arendt « Qu'est-ce que la politique ?». Carole abordera justement la question de l'expérience grecque dans l'œuvre de Hannah Arendt. Donc je ferai une première intervention, et puis à la fin de chaque intervention, on laissera un temps pas trop grand autour des questions précises sur chacune de ces interventions, et puis on laissera un temps plus important à la fin de la dernière intervention pour reprendre toutes les questions transversales à nos trois propos et lancer la discussion.